Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être encore à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. Ravi de vous retrouver, nouveaux auditeurs et anciens, toujours fidèles au rendez-vous des mélomaniacs, pour un tour d'horizon des propositions musicales récentes et à venir dans notre région. Comme vous le savez, elles ne manquent pas et elles abondent même ces temps-ci, mais nous allons essayer d'être le plus complet possible malgré tout. La tâche étant immense, j'ai la chance d'être aidé par deux experts mélomaniacs pour y parvenir. Tout d'abord, et c'est son retour dans cette émission aujourd'hui, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Elle est accompagnée de Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Bienvenue aussi à vous deux, merci pour votre présence à mes côtés. Comme le veut une tradition maintenant bien établie à Mélomanie, c'est aux événements de la semaine passée que nous allons d'abord nous intéresser pour la première partie de ce numéro.
Mélomanie. Retour arrière.
La cinquième et dernière représentation de la Valkyrie a eu lieu dimanche dernier au Théâtre du Capitole. Nous avions déjà évoqué cette production il y a deux semaines à Mélomanie. Et il faut dire que Serge Chosy et surtout Robert Pénavert avaient été assez critiques pour certains des chanteurs interprétant les rôles principaux de l'opéra de Richard Wagner à Toulouse. Pour ma part, je les ai découverts dimanche puisque je n'avais pas eu l'occasion d'assister aux représentations précédentes. Nous nous sommes croisés lors de cette dernière, Anne-Marie Chouchan, et vous souhaitiez exprimer votre avis qui se trouve être assez radicalement différent de celui de Robert Pénavert. Alors, votre jugement sur cette Valkyrie ?
Mon jugement, c'est peut-être pas la seule chose qui compte, parce que mon jugement a été étayé par la réaction du public dimanche. Un public qui était très nombreux, puisque là, c'était vraiment une salle très très pleine jusqu'au paradis, et qu'il y avait même le cercle Wagner qui était venu en force, et que l'enthousiasme du public à chaque entracte, au final, et les nombreux rappels prouvent que vraiment la partie était plus que gagnée, sur tous les plans d'ailleurs, scénique, musical et vocal, parce que je crois que là il y avait un plateau qui était sans fausse note, un vrai plateau de chanteurs wagnériens qui allie la puissance vocale à aussi une expression qui peut être très très émouvante et qui fait que à chaque instant cette Valkyrie passionne, émeut, et c'est vraiment une réussite qui jusqu'à la dernière note nous tient pas que sous le charme, sous la
tension
qui ne faiblit pas, aidée par un orchestre dirigé par Klaus Peter Flor qui est somptueux de son souvent, puisque l'orchestre dans les œuvres de Wagner a un rôle aussi important que les chanteurs, que souvent l'orchestre est seul quand les chanteurs se taisent, et c'est dans l'orchestre que tout doit passer, toutes les émotions, à la fois aussi la puissance, il y a la fameuse chevauchée des Valkyries qui est toujours un morceau de bravoure que tout le monde connaît ou croit connaître, et que là les voix sont superlatives. Anna Smirnova en Brunehilde, c'est plus qu'une révélation. Non seulement elle a une voix d'airain, des aigus incroyables, et en même temps, comme c'est une mezzo à l'origine avec un timbre grave, avec de belles note grave, elle peut exprimer une émotion intense, et j'ai particulièrement un souvenir, son annonce à la mort à Sigmund, bien sûr, qui était une grande émotion, avec de la noirceur dans la voix, une grande émotion. Donc je pense que c'était une réussite totale, et le spectacle est vraiment somptueux.
À propos de Anna Smirnova, vous parliez de superlatif. Notre ami et collègue de Mélomanie, Hubert Stocklin, a écrit un article dans classicnews.com qui était relayé sur Culture 31, où il a dit qu'Anna Smirnova était la Brunhilde du siècle. Rien de moins.
Du siècle, le siècle nous sort.
Son avis.
Oui, je pense qu'il n'a pas tort, parce que ces dernières années, en fait, après certains géants d'il y a longtemps, à une époque c'était tout le temps Birgit Nilsson qui était la Brunehilde de pas mal de représentations à Bayreuth, il y a une intégrale avec elle qui était la voix des reins qui chantait sans problème ce personnage. Je pense que souvent on n'a pas eu forcément des Brunehilde avec une telle dimension, et une dimension qui n'était pas simplement due à des notes aiguës incroyables, mais à un ensemble de qualités qui font que c'est une Brunehilde complète, puisque cette Valkyrie, cette vierge guerrière, c'est un personnage qui a aussi de l'émotion, qui n'est pas qu'héroïque. Donc je crois que là, il a raison, Smirnova, c'est vraiment, je pense, une grande Brunehilde qui s'annonce aujourd'hui, puisque c'était sa première Brunehilde.
Robert Pénavert et un petit peu Serge Chosy étaient eux vraiment critiques sur Wotan, interprété par le Polonais Tomasz Kosciński. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce Wotan ?
Le soir de la première, c'est vrai, sa fameuse scène des adieux de Wotan là, qui termine l'opéra, qui est un moment, un des plus beaux moments de l'opéra et des opéras de Wagner, les adieux de Wotan à sa fille Brunehilde, c'était totalement détimbré, mais je pense que en fait, c'est un chanteur qui ne se contente pas de faire entendre une belle voix, c'est un homme de théâtre aussi, il veut jouer. Et là, je crois que dans cette scène finale, il avait privilégié le théâtre. Dimanche était différent parce qu'il a réussi à être, à avoir de l'émotion, mais en même temps à tenir sa voix peut-être de façon plus homogène. Mais je crois que c'est aussi un chanteur qui sait plus que chanter, mais aussi qui sait livrer une incarnation. Et je crois que chez Wagner, pendant longtemps aussi, on a eu des chanteurs qui étaient des sortes de, je dirais pas de monstres, mais des gens qui chantait, il bougeait pas beaucoup, il fallait être héroïque et solide. Là, on a eu aussi des gens qui étaient vraiment des gens qui savaient exprimer beaucoup de choses, tout en étant de grands chanteurs.
Si je l'ai trouvé un petit peu en dedans au deuxième acte, j'ai trouvé qu'il était vraiment tout à fait à la hauteur au troisième, et comme vous l'avez dit, très grosse émotion pour la scène finale, les adieux, là, c'était vraiment magnifique. Alors, je voudrais maintenant l'avis du musicien Serge Krichevski, qui lui était dans l'orchestre, donc lui, il va nous parler de, non pas de ce qu'il a vu, mais de ce qu'il a entendu de la fosse. Les voix dont nous venons de parler, vous avez dû voir l'évolution, parce que vous étiez forcément aux 5 représentations.
Oui, alors pour Wotan, donc Tomasz Konieczny, effectivement, on sent un acteur, une personne qui est très intéressée par toutes les facettes du rôle. Bon, il a exprimé que c'était un rôle qui, sur la totalité de la tétralogie, était parfois très différent, dans l'Ordurin, dans le bon. Mais dans la Valkyrie, le rôle de Wotan est déjà complexe et complet, puisque, bon, il est le dieu, il est le père, il exprime dans ses récits, dans tous les récitatifs au deuxième acte, en particulier des moments de désespoir qu'on n'attend pas tellement chez un dieu, mais bon. Et puis finalement, il y a ce geste magnifique de l'humanisation de Brunhilde, hein, puisque c'est tout l'enjeu de cet opéra. À la fin du troisième acte, Brunhilde quitte son statut de déesse, enfin de fille de dieu, et devient une femme qui devra être découverte, si on peut dire, par un héros qui n'a pas connu la peur, donc ce sera Siegfried, dans l'opéra Siegfried. Donc effectivement, il y a beaucoup d'ambiances différentes. On sentait très très bien que le chanteur essayait de faire passer, il y a une palette très très large d'expressions, hein, et effectivement, ce que vous disiez est très juste, c'est-à-dire que forcément, les moments de récitatif, c'est par moments quasiment parler, enfin, c'est à la limite,
ouais, oui.
Et puis à d'autres moments, enfin, l'accompagnement est très succinct, et puis à d'autres moments, il y a un écrin pour la voix dans la dernière aria où il est en train d'allumer le feu autour de Brunhilde, ça c'est vrai, là c'est très très lyrique, et je pense qu'effectivement, il a progressivement lâcher plus tout ce qui était strictement vocal, mais il y a aussi des moments de très grande colère, il y a des moments de déprime, de dépression, une palette très très variée qu'on a tout à fait ressentie dans sa voix.
Vous, en conclusion, vous qui avez assisté aux 5 représentations, c'était quand même une très belle production, m'a-t-il semblé.
Moi, j'ai trouvé que globalement, c'était une très belle production. Le rôle de Frika également, qui était tenu par une Russe,
magnifique.
Vraiment, c'était superbe.
Elena Zitkova.
Voilà, voilà. Et également, Brunhilde, dont vous avez parlé, une voix magnifique, apparemment, qui a aussi un talent quand même de...
d'interprète, de comédienne.
Voilà,
même, hein,
tragédienne, ouais, puisque c'est bien de la tragédie dont il s'agit, et puis qui réussit à transformer ses...
Oui, allez-y, allez ajouter quelque chose, Anne-Marie.
À propos de ce que vient de dire Serge, je l'ai noté déjà, à propos de cette Valkyrie, c'est qu'au Théâtre du Capitole, où l'ancien directeur ou d'autres disaient « oui, il faut faire chanter des Français », bon, paraît-il, même si on n'en trouve pas forcément les voix qu'il faut chez les Français pour ce répertoire, mais aussi disaient « oui, il y a trop de voix russes ». Je constate quand même que dans la réussite de cette Valkyrie, il y avait plusieurs voix russes.
Les Slaves, en général, sont très accueillis.
Et qu'actuellement, il y a beaucoup de chanteurs russes, quand même, qui se révèlent.
Oui. Oui. Effectivement, il y avait aussi le chanteur qui jouait Hagen, qui était russe, et ce qui est plus rare maintenant, ce qui était rare et qu'il est devenu moins, c'est d'avoir des grandes voix de femmes russes. Avant, on avait beaucoup de voix, en particulier graves, d'hommes,
oui.
Magnifiques. Bon, on a connu, il y a eu Boris Christophe il y a longtemps, bien après Chaliapine, mais il y a eu également Pata Bouhouladze récemment, et puis voilà, enfin, quelques très grands chanteurs. Et là, on a effectivement, depuis quelques années, des grandes voix féminines.
Sur plusieurs générations, hein. Ouais. Bon, écoutez, on va clore l'affaire Valkyrie avec cet échange. Robert Pénavert, qui était lui aussi présent la dernière, il est plutôt resté sur ses positions, même s'il a un peu nuancé son jugement sur la prestation de Wotan après le troisième acte.
Juste une petite mention pour quand même considérer que le chef qu'on a eu, Klaus-Peter Flohr, a fait un très beau travail musical. C'est une personne qui n'est pas toujours des plus faciles en répétition, mais en même temps, il est extrêmement réactif, profondément musicien et dans le fond, vraiment absolument pas méchant. C'est juste la musique qui le motive.
Merci d'avoir fait cette précision pour lui, parce qu'effectivement, il le mérite. Bon, chacun a pu exprimer son opinion. Maintenant, on va refermer le dossier, parce que je voudrais maintenant revenir sur les concerts qu'ont donnés la semaine dernière l'Orchestre de chambre de Toulouse et le pianiste Thierry Huillet à l'Escale de Tournefeuille et à Saint-Pierre-des-Cuisines. Attention, quand je dis l'Orchestre de chambre de Toulouse, je devrais plutôt dire quatre de ses membres, dont Gilles Colliard, son directeur, puisqu'il s'agissait d'un programme de quintettes et quatuors avec piano. Une œuvre au programme pour chacune de ces formations, ce qui n'est pas si courant. La première, c'était le quintette pour piano et cordes numéro 1, opus 89 de Gabriel Fauré. La seconde, le quatuor avec piano, opus 30 d'Ernest Chausson. Deux pièces créées à peu près à la même période. 1898 pour celle de Chausson, entre 1903 et 1906 pour celle de Fauré, mais sensiblement différent tout de même en termes de composition et d'ambiance, bien que Gilles Colliard a insisté en les présentant sur le fait qu'elles n'étaient pas contemporaines pour rien du mouvement impressionniste en peinture. Il est vrai qu'il y a quelques liens lorsqu'on écoute bien. Je dois dire que pour qui aime la musique française de cette époque, ce qui est mon cas, c'était très agréable à écouter et plutôt joliment interprété. Alors après le concert, j'ai pu échanger un peu avec Thierry Huillet. Vous savez qu'il est non seulement pianiste mais aussi compositeur, et il m'a expliqué, selon lui bien sûr, que la façon dont Chausson avait composé son quatuor était pour le moins iconoclaste, voire en dépit du bon sens si j'ai bien compris, et que ce n'était pas simple du tout à jouer pour les musiciens, un peu déroutant, même si l'œuvre est belle à écouter. Alors moi je sais pas trop quoi en penser, et je voulais avoir l'avis de Serge Krichewski. Vous connaissez je crois un peu la musique de Chausson, vous l'avez joué, vous avez un avis là sur ce que dit Thierry Huillet?
Alors malheureusement je n'ai pas, disons, très récemment entendu cette œuvre, donc le quatuor avec piano, que je connais, mais j'ai un point de vue plus général. Chausson a écrit beaucoup de mélodies pour voix et piano, il a écrit de la musique symphonique, il a écrit un superbe poème pour violon et orchestre, et le poème de l'amour et de la mer qui associe la voix et l'orchestre. Et puis il y a une belle symphonie également, il y a une œuvre magnifique de musique de chambre qui est le concert pour violon, piano et quatuor à cordes. Je dois dire que à écouter, ça nous provoque plutôt un grand plaisir à tous les musiciens. À jouer, j'ai pas la sensation particulière que cette musique n'est pas naturelle à jouer. Après, peut-être que Thierry Huillet parlait particulièrement de ce quatuor, c'est pas impossible, mais je dois dire que d'une manière générale, ce qui est intéressant dans la musique de Chausson, on parlait de la Valkyrie, c'est que c'est un descendant, enfin une personne qui a été vraiment captivée par la pensée et l'écriture wagnérienne. Il a fait le voyage à Bayreuth, bien sûr, comme beaucoup d'autres, hein, comme Fauré, comme Messager, comme la plupart des grands compositeurs des années 1880. Bon, il y a eu l'ouverture 1876, mais après il y a eu les cycles suivants, animés par Cosima, puisque Wagner était mort en 83. Mais il a été très imprégné, et malgré tout, il est, à partir des années 1890, en train de trouver un style personnel. Il était très admiré de Debussy, ce qui n'était pas évident du tout.
En effet.
Et il a été un peu une sorte de maillon, quand même. Il a trouvé vraiment cette formule personnelle. Alors, c'est une musique qui est souvent un peu plus sombre, peut-être, que la musique française de l'époque. D'ailleurs, les deux œuvres devaient certainement pouvoir être comparées sous cet angle, puisque le quintette de Fauré est une œuvre vraiment transparente, lumineuse et complètement, on peut dire, impressionniste.
C'est exactement ce qu'a dit Gilles Colliard en présentant les deux œuvres, d'ailleurs.
Et par contre, la musique de Chausson, bon, y compris dans la symphonie, dans le roi Artus, son opéra, etc., souvent, elle n'hésite pas à être dans les registres plus graves, dans des mélodies plus sombres, plus tourmentées. Mais c'est un très grand compositeur qui fait la jonction, vraiment, entre le post-romantisme, le symbolisme et l'impressionnisme.
Voilà, alors je ne vais pas passer un extrait de ce quatuor de Chausson, qui, je rappelle, est mort malheureusement prématurément à l'âge de 44 ans, en faisant une chute de vélo dans son jardin, et il tombe, et puis il heurte une pierre, il est tué sur le coup. Il avait sans doute encore beaucoup de très belles choses à composer. On va écouter un extrait du quintette pour piano et cordes numéro 1, opus 89 de Gabriel Fauré. Le premier mouvement, vous parliez d'impressionnisme, de luminosité, de transparence. Alors là, vraiment, on est en plein dedans. Écoutez. Thank you. Le premier mouvement Molto Moderato du quintet pour piano et cordes numéro 1, opus 89 de Gabriel Fauré, une version du quatuor ébène et du pianiste Éric Lesage. Vous me disiez, Serge Krichevski, en écoutant cette musique magnifique, il y avait quelque chose de déjà très ravelien dans ce mouvement.
Oui, il y a cette sensation comme ça flottante un petit peu, bon, avec une absence de poids, une transparence. Visiblement, les interprètes là l'ont un petit peu, j'ai l'impression, tiré vers le Fauré plus juvénile des quatuors, avec par moment quand même une sonorité plus soutenue, plus engagée. On pourrait en faire quelque chose encore plus suspendu, mais voilà, c'est une musique qui est difficile, très difficile à interpréter, mais que malgré tout on peut interpréter de manière très différente, hein. Il y a une atmosphère comme ça difficile à obtenir, à garder, et puis la musique française est toujours tellement délicate que il faut faire bien attention à la doser.
Merci pour ce beau commentaire. C'était une des œuvres au programme des concerts récents de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, et vous pouvez d'ores et déjà noter que les prochains qu'ils donnent à Saint-Pierre-des-Cuisines à l'escale de Tournefeuille ont lieu les 8 et 9 mars, puis les 20 et 21, et sont sous-titrés L'art de la danse. Samedi dernier, à la Lograin, il y avait un concert d'un nouveau cycle proposé par l'Orchestre National du Capitole et intitulé Une heure avec Jean-François Zigel, qu'on ne présente plus. Là, le sujet, c'était Mozart, et Jean-François Zigel avait appelé ce concert mon Mozart à moi. Anne-Marie Chouchan, vous y étiez, et vous teniez à en parler parce qu'apparemment vous avez été très séduite par la proposition, les propositions de Jean-François Zigel ce soir-là.
Oui, j'ai été séduite parce que je me méfiais un petit peu. J'y suis allé un petit peu en reculons, parce que c'est vrai que Zigel et ses fameuses leçons, au bout d'un moment, cette façon faussement simple de parler de la musique et de façon un peu docte souvent, n'arrivait pas à me convaincre totalement que c'était comme ça qu'il fallait parler de la musique. Je préfère souvent écouter la musique et peut-être ressentir certaines sensations que d'écouter des discours autour de la musique. Et cette fois-ci, il a inauguré avec l'Orchestre du Capitole une nouvelle formule qu'il avait proposée à l'orchestre, qui s'appelle Une heure avec Jean-François Zigel. Et cette série, il y en aura deux autres cette saison, et elle continuera la saison prochaine. Et il l'a inaugurée avec ce concert Mozart. Enfin, c'était pas un concert, c'était quelque chose qui ressemblait à une conversation avec Mozart. Il racontait des anecdotes, mais toujours savoureuses et bien, bien faites. Il se mettait au piano. Cette fois-ci, il a joué du piano, je trouve, avec pas mal de finesse. Et ensuite, il laissait les musiciens de l'Orchestre du Capitole de jouer de la musique de chambre en petite formation.
En trio, en quatuor.
En quatuor. Et tout le monde a joué le jeu et c'était très sympathique. Et je pense que la formule, s'il la tient comme ça, elle est, je pense, très séduisante et pour un large public, parce que là, la Halle au Grain était pleine à craquer.
Oui,
il y avait plus
d'une
place. Oui. Ah oui, 2000 personnes, des enfants, des seniors, des familles, enfin, plein. Tout le monde l'a écouté. En même temps, il savait s'adresser aux gens, raconter une anecdote sur Mozart, mais sympathique. Il n'a pas cherché à raconter la vie de Mozart. Alors, il a laissé les musiciens du Capitole illustrer ça. Il y avait la violoniste Audrey Loupi, l'altiste Domingo Mujica, qui est l'alto solo de l'orchestre. Il y avait Sarah Nyankou, aussi violoncelle solo de l'orchestre. La flûtiste Sandrine Tilly, le hautboïste Shi Yuan Sheng. Et puis aussi, donc, il y avait un invité qui était Thomas Bloch, qui jouait de l'harmonica de verre.
Oui, j'ai vu qu'il y avait le glas harmonica.
Et Zigel a bien présenté, il l'a fait parler, cet instrument qui, à cette époque-là, existait, pour lequel Mozart a écrit quelques petites pièces. Donc, finalement, c'était musicalement très intéressant. Et sans chercher à faire une leçon de musique autour de Mozart, et qui était très séduisante, puisqu'il y a eu beaucoup de succès, que je crois que les gens étaient contents. Donc le prochain, ça sera le 31 mars, toujours à 18h le samedi.
Voilà, faut noter que c'est à 18h les samedis, hein, pas à 20h, c'est 18h.
Je pense que l'horaire est bien choisi pour des gens qui ne veulent pas sortir le soir, ou qui sortent en famille, une heure.
Qui vont déjeuner après
voilà.
Un concert. Hein.
Donc ça sera le 31 mars, ça sera sur
dîner,
le thème « Voulez-vous danser avec moi ?» Et le dernier de cette saison sera le 28 avril avec Voyage en Espagne. Alors là, je crois qu'il aussi, il improvisera, parce que là, il a improvisé un petit peu aussi, mais il a joué du Mozart. Non, c'est une formule, je pense, qui, la preuve, peut séduire un large public qui va avoir sa place à la saison.
Et puis, il y avait vraiment beaucoup de musique, parce que j'ai vu, il y avait le trio en ut majeur, le quatuor et piano en sol mineur.
Des extraits, je pense, il y a eu des extraits.
Oui, hein, mais il y avait beaucoup d'œuvres, quoi.
Voilà, c'était des extraits.
Oui. Hein. Il faut juste dire que, visiblement, bon, cette série, c'est normal qu'elle ait du succès, et centrée autour de la personne de
Jean-François Zigel. Sa façon de faire, bien sûr.
Et puisque les prochains concerts, ce ne sera pas une formation de chambre, il y aura donc une formation de cordes, je pense, dans le deuxième concert, et l'orchestre entier pour le concert autour de l'Espagne. Donc, il choisit des thèmes, et puis
il
les illustre avec les musiciens qu'il souhaite utiliser.
Sauf que Tu as raison, il y a ce côté où il se met lui-même en scène qui peut être très irritant. J'ai noté, c'est pour ça que je pense que j'ai été favorable à cette nouvelle formule, c'est que cette fois-ci, il ne s'est pas trop mis en valeur.
D'accord. Ouais, ouais,
il
oui.
a plus laissé, ensuite, les a présentés, les musiciens du Capitole, dans des extraits. Lui-même, il s'est mis en retrait un petit peu, il n'a pas cherché à se mettre en valeur tout le temps, parce que c'est vrai que...
C'est l'écho que j'ai eu de mes collègues également. Voilà.
Voilà, donc c'est ce que j'ai remarqué, parce qu'il les a bien mis en valeur, et ils ont tous été très applaudis. J'espère que ça continuera comme ça.
Il a une personnalité très forte, hein, donc c'est pas toujours...
Oui,
voilà, c'est normal.
Bon,
hein.
Ça fait partie du personnage, oui. On aime ou on n'aime pas, mais enfin, oui. C'est quand même un musicien, il faut le dire, et il sait de quoi il parle en général. Voilà. Donc, nouveau rendez-vous à suivre. Le prochain, c'est le samedi 31 mars à 18h, et c'est « Voulez-vous danser avec moi ?»
Voilà.
Bien. Alors, on va parler maintenant d'un autre concert, et ça, je souhaitais vraiment l'évoquer dans cette émission. C'est celui qu'a donné le Trio Zadig mardi à l'auditorium du Musée des Abattoirs, dans le cadre de la saison bleue organisée par Alain Lacroix et son équipe. Un public nombreux était manifestement très heureux de retrouver les trois musiciens de Zadig à Toulouse, le violoniste Boris Borgolotto, le violoncelliste Marc Gérard Garcia et le pianiste Yann Barber. Les deux premiers sont toulousains d'origine. On a eu la chance de les entendre souvent ces derniers mois dans leur ville natale. Ils étaient en concert par exemple à Saint-Pierre-des-Cuisines en septembre dernier et lors du festival Musique au Palais fin novembre au Palais Niel. Alors moi qui les suis depuis quelques temps, j'avoue qu'ils m'impressionnent de plus en plus, ces trois-là, de concert en concert. Le son, l'osmose, l'équilibre de l'ensemble se font plus probants à chaque fois. Je l'ai déjà dit mais je vais le redire, je les vois vraiment dans les pas de leurs illustres aînés du Trio Vandereur et je pense qu'ils sont partis pour une vraie grande carrière internationale qui a déjà bien commencé. Mardi, ils ont joué le Trio élégiaque numéro 1 sol mineur de Rachmaninov et le Trio en la mineur opus 50 à la mémoire d'un grand artiste de Tchaïkovski. Alors je voulais les saluer et leur rendre hommage pour ce magnifique concert longuement applaudi. Ils ont eu droit à deux rappels. On va les écouter maintenant dans l'interprétation du Trio à la mémoire d'un grand artiste de Tchaïkovski. Extrait du Trio en la mineur opus 50 à la mémoire d'un grand artiste de Tchaïkovski, interprété par le Trio Zadig, dont nous allons suivre de près les prochaines venues dans notre région, Aimé Maillard, puisqu'il porte l'excellence musicale toulousaine un peu partout dans le monde désormais. Le lendemain, c'était le concert du jeune claveciniste Jean Rondeau, accompagné de 5 de ses camarades à l'église Saint-Exupère, le 4e de la saison des Arts Renaissants. Il était intitulé Concerto pour clavecin de la famille Bach. Jean Rondeau, musicien qui n'a pas encore seulement 27 ans et qui présente un look qui détonne dans le petit monde de la musique baroque. Son opulente chevelure rousse et sa barbe très fournie commencent à être célèbres. Ça lui donne un air de pirate du classe 5 qui, ma foi, lui va plutôt bien. Mais oublions ses considérations capillaires. Ce qui compte, c'est la musique. Et là, il n'y a aucun doute, on a affaire à un authentique grand musicien. De plus, il sait s'entourer parce que ses 5 compagnons de scène sont excellents. Et à la hauteur des œuvres de la famille Bach qu'ils ont joué mercredi soir, un programme de toute beauté où l'on trouvait une sonate et les concertos pour clavecin de Jean-Sébastien Bach lui-même, mais aussi un autre concerto attribué à l'un de ses fils. Alors là, on ne sait pas trop. A priori, ce serait Johann Christian, mais il n'est pas impossible que ce soit aussi l'œuvre de Wilhelm Friedman, voire de Carl-Philippe Emmanuel, dit Xide Jean Rondeau, qui a cru reconnaître certaines pages dans les partitions de cette œuvre qui pourraient être de Carl-Philippe Emmanuel. Moi, je n'en sais rien. Toujours est-il que l'interprétation de toutes ces pièces a été formidable devant un public enthousiaste et sous le charme, pour reprendre votre expression, Anne-Marie, une église Saint-Exupère quasi pleine, malgré la soirée pluvieuse, et la concurrence de la Saint-Valentin et du match Real Madrid-PSG, intensité, délicatesse et énergie au service de la musique de Bach dont la modernité étonne toujours. Vive le clavecin et vive Jean Rondeau et ses musiciens. J'espère qu'on les reverra et réentendra très vite à Toulouse, peut-être lors d'un festival où Bach et sa musique sont particulièrement mis à l'honneur, si vous voyez ce que je veux dire. Qui sait ? En tout cas, bravo aux Arts Renaissants de les avoir programmés. Notez que le prochain concert des Arts Renaissants est donné le 14 mars avec Magali Léger et l'ensemble Rosa Solis. Et ce sera de nouveau en l'église Saint-Exupère. Fin de cette première partie d'émission très dense et très variée. Je vous donne rendez-vous dans une petite minute pour la seconde partie de Mélomanie et l'agenda. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
C'est la seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Krichevski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de la semaine, c'est encore l'actualité lyrique avec les deux représentations de la version concert d'Orphée et Eurydice, l'opéra de Gluck, au Théâtre du Capitole, vendredi 23 février à 20h et dimanche 25 à 15h. C'est l'Orchestre des Talents Lyriques dirigé par Christophe Rousset qui sera dans la fosse. Sur scène, le Chœur du Capitole d'Alfonso Cayani et pour les chanteurs solistes, Frédéric Antoun dans le rôle d'Orphée, Judith Van Vanrooij dans celui d'Eurydice, Jeudi de Vos chantant L'Amour. Voilà pour la distribution. C'est la version d'Orphée et Eurydice dite de Paris, créée le 2 août 1774 au Théâtre du Palais Royal, qui est proposée au public toulousain. Il faut rappeler que cet opéra a eu un gros succès à l'époque de sa création dans ce qui était l'Europe des Lumières et qu'il marqua une certaine rupture avec les conventions opératiques qui prédominaient jusqu'alors. Anne-Marie, Serge, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet Orphée et Eurydice de Gluck ? Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau à l'époque ? C'était le 30e opéra de Gluck et c'est, je pense, de loin le plus célèbre du compositeur allemand.
Il a, je crois, apporté surtout une rupture avec une certaine forme d'opéra qui était un opéra, disons, basé sur la prouesse vocale uniquement, peu soucieux de vérité dramatique. Là, Gluck inaugure, du moins en France, surtout en France, une forme d'opéra qui attache de l'importance à l'intrigue, qui ne considère pas que c'est un simple jeu virtuose qui est confié au chanteur. Enfin, je crois, quelque chose qui a beaucoup de cohérence, toujours en s'appuyant, bien sûr, sur un grand mythe. Là, c'est celui d'Orphée. Et ensuite, là, il confie le rôle d'Orphée à un ténor et pas
Pas un travesti, une femme.
La version italienne, parce qu'il y a...
Voilà. Oui. Donc, c'est le symbole, c'est vrai, d'une nouvelle forme d'opéra qui va succéder, surtout en Italie d'ailleurs, une certaine conception de l'opéra, bien que parallèlement, à la fin du XVIIIe siècle, il y a déjà Mozart qui, quand même, apporte aussi une voix nouvelle à l'opéra, avec une cohérence dramatique, une importance donnée à la musique, quelque chose qui est un art complet aussi, du côté de Mozart. Mais en France, je crois que c'est vraiment, à la fin du XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui apporte un air nouveau, c'est le cas de le dire, à l'opéra.
Là, on attend. Surtout dans le domaine de l'opéra seria, puisque je pense que c'est les grands thèmes de Gluck, c'est souvent ça, hein, Iphigénie, Antoride, Enolide, les diverses versions d'Orphée. On nourrit certainement la réflexion et les compositions de Mozart pour des opéras comme Idoménée, enfin toutes ces tentatives d'opéra seria.
Il était aussi très attentif, et il y avait beaucoup de soins apportés à la langue, à la prosodie. Je crois que c'est vraiment une des particularités, entre autres, de cet opéra.
Oui, le traitement des récitatifs chez Gluck, effectivement, est très particulier. Hein.
Et bien sûr, nous le ressentons plus particulièrement dans la version française dite de Paris, que l'on va entendre, et l'air, bien sûr, qui est connu, cet opéra par J'ai perdu mon Eurydice, qui ne l'a pas chanté et même parodié. Voilà, et les chanteurs qui sont donc l'un ténor, c'est Frédéric Antoum.
Antoun. Moi je prononce Antoun.
Judith Van Roich chante Eurydice, la soprano, et l'amour c'est Jody DeVos.
Dont je vais parler pour autre chose.
C'est un trio, donc c'est une version de concert, mais que le Capitole a décidé quand même de surtitrer. Il y aura des surtitres en français, même si c'est en français, parce que finalement, si le public ne comprend pas toujours ce qui se dit, même en français, il préfère lire souvent les surtitres.
Je crois que c'est une œuvre qui est souvent donnée en version concert, parce que je pense qu'il y a une partie musicale qui est très charnue, très riche, avec des grands chœurs, le chœur des enfers, enfin des scènes qui sont s'y prêtent et qui mettent en valeur le chœur. Il y a la scène des Champs-Élysées avec un superbe solo de flûte. Enfin, c'est toujours des pages qui parlent toujours à la mémoire. Enfin, les gens se reconnaîtront. Hein.
Un mot peut-être sur l'orchestre, donc les talents lyriques de Christophe Rousset, qu'on a déjà vu au Capitole. Hein. La dernière fois, personnellement, je les ai vus, c'était pour les Indes Galantes, il y a plus de 3 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans.
C'est une formation sur instruments anciens, oui, qui est réputée. Que je trouvais un rien sèche parfois dans certaines choses, mais enfin bon, Christophe Rousset, quelqu'un, c'est vrai, qui est assez presque austère, qui je pense a fait de la recherche sur instruments anciens quelque chose d'un peu austère, parce que la musique finalement, quels que soient les instruments, elle est faite pour le plaisir, et qu'il faut que les instruments de musique aussi anciens nous procurent quelque chose, même aussi par le son ou par quelque chose d'un peu sensible, disons.
Oui, il y a beaucoup de musiciens qui viennent du répertoire baroque. Bon, lui est claveciniste, Christophe Rousset. Bon, voilà, c'est pas toujours évident de trouver le juste milieu entre quelque chose d'un petit peu plus libre, plus extraverti, plus expressif, et puis une dimension plus musicologique. Hein. Bon, d'une certaine manière, un grand comme Nicolas Hoarnoncourt ou même Gustave Léonard ont eu ce type de problématique. Après, qui trouve une réponse différente chez chaque interprète, chez chaque personnalité. Il y a eu les Kuyken, enfin chacun...
Christophe Rousset passé par les Arts florissants de William Christie, comme nombre de musiciens de sa génération
sûr,
qui sont devenus chefs depuis. Minkowski, par exemple, Hervé Niquet, et puis notre Joël Subiette aussi. Tous ces gens sont de la même génération. On va écouter un extrait d'Orphée Eurydice de Gluck, l'ouverture. Et là, c'est une version de l'ensemble baroque de Toulouse avec Caroline Champy qui interprète Orphée.
Thank you.
l'ouverture d'Orphée Eurydice de Gluck, interprétée ici par l'ensemble baroque de Toulouse sous la direction de Michel Brun, avec Caroline Champy qui chantait Orphée. La version concert d'Orphée Eurydice est donc donnée au Théâtre du Capitole vendredi 23 février à 20h et dimanche 25 à 15h par l'Orchestre des Talents Lyriques dirigé par Christophe Rousset. Et justement, je l'ai précisé tout à l'heure, la soprano belge Jodie De Vos va interpréter L'Amour dans cette version concert d'Orphée Eurydice au Théâtre du Capitole. Il se trouve que le jeudi 22 février à 12h30 au même endroit, elle est programmée dans le cadre des Midis du Capitole. Accompagnée par le pianiste Christophe Larieux, elle va chanter un programme d'air d'opéra, d'opérette et de mélodie, tous écrits par des compositeurs français. Alors pêle-mêle, il y aura des œuvres de Debussy, Massenet, Messager, Roussel et Poulenc, et même un air de la compositrice contemporaine Isabelle Aboulker, l'occasion de découvrir la voix cristalline et très pure de cette jeune chanteuse, primée il y a 4 ans au concours musical international Reine-Elisabeth de Belgique, son pays d'origine. Petit avant-goût tout de suite avec cet extrait de Roméo et Juliette de Charles Gounod, le fameux air de Juliette interprété par Jodie De Vos. L'air de Juliette, extrait de Roméo et Juliette de Charles Gounod, interprété par Jodie De Vos, que je vous invite à aller écouter au Théâtre du Capitole, accompagné par Christophe Larieux au piano, jeudi 22 février à 12h30, dans le cadre des Midis du Capitole. Le lendemain, vendredi 23 février à 20h, c'est l'Orchestre National du Capitole qui prend le relais à la Halograin pour un concert dirigé par le chef letton Andris Poga, souvent invité ces dernières années. Au programme, il y a une œuvre du compositeur contemporain Benjamin Attahir, Saftil Zahir Zaman, à la mémoire de Pierre Boulez, c'est le titre. Il y a également la 8e symphonie de Dvorak et le concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Serge Prokofiev, pour lequel l'ensemble symphonique toulousain va accompagner le pianiste russe Andrei Korobeynikov. Avant de parler de ce dernier et des œuvres jouées lors de ce concert, petite présentation d'Andris Poga, un chef qui vous a déjà dirigé cette saison, Serge Krichevski, pour une 6e symphonie de Mahler restée dans les mémoires. C'était il y a quelques mois. Alors vous avez vos habitudes maintenant avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet Andris Spoga?
Alors c'est un chef qui commence à avoir un répertoire maintenant assez large. Enfin, c'est bien qu'il fasse une œuvre qui avait déjà été programmée l'année dernière, je crois. L'œuvre de Benjamin Attahir, qui est un compositeur aussi très talentueux. Il fait son chemin, Andris Spoga, il continue. On a fait beaucoup de choses différentes avec lui. Ça se passe en général assez bien, la plupart du temps. Hein. Il a une énergie qui s'accorde différemment aux œuvres qu'on aborde. Hein. Mais la plupart du temps, c'est très bien réalisé.
Alors, on va parler du programme maintenant. Vous venez de parler de Benjamin Attahir. Il faut préciser pour ceux qui ne le sauraient pas qu'il est né à Toulouse. Il n'y a même pas 30 ans, parce qu'il est né en 1989, donc tout jeune compositeur, violoniste de formation. Il avait fait ses études au Conservatoire Régional de Toulouse. Après, il est monté à Paris. Il a commencé la composition. Il a été l'élève, et je crois qu'il reste un peu dans le sillage, de Gérard Pesson, entre autres. Et il me semble que vous lui aviez commandé, enfin que l'Orchestre National du Capitole lui avait commandé une œuvre il y a quelques années. Et ça vous concerne un peu, parce que c'est un concerto.
Il a écrit un grand concerto pour notre collègue Olivier Stankiewicz qui est maintenant à Londres, et c'est un concerto un petit peu exceptionnellement développé pour un autre instrument quand même, parce qu'il était très long, il y avait une orchestration très très fournie et une écriture très virtuose pour l'orchestre, sans parler évidemment de la partie soliste. Bon, c'est quelqu'un qui a visiblement quand même beaucoup d'idées et puis beaucoup de talent, je pense. Benjamin Attahir, il commence là aussi à être joué, je pense, en dehors de France, et il a été en résidence dans différents endroit, et c'est quelqu'un qui va avoir l'occasion d'exprimer des choses très très fortes dans les années qui viennent.
Alors, comme vous l'avez déjà joué apparemment, l'œuvre que vous avez jouée le 23 février, Saftil Zaman, à la mémoire de Pierre Boulez, vous pouvez nous en dire quelques mots?
Pas grand chose, malheureusement. Enfin, je sais que cette œuvre, alors soit elle n'était pas achevée complètement, soit il y a eu une difficulté pour pouvoir la monter correctement, peut-être, mais elle était prévue, et Benjamin Attahir a, je crois, des origines en partie libanaises, donc il y a beaucoup de
d'influences
qui se croisent, l'Orient, le Proche-Orient, mais beaucoup de choses. Il a un univers qui est un alliage de beaucoup de choses variées, complexes. Mais
et puis il y a le sous-titre, à la mémoire de Pierre Boulez.
Voilà, c'est ça, voilà. Non, ça risque d'être un moment passionnant. Un compositeur, en tout cas, à suivre, enfin, qui écrit difficile, mais quand même bien et toujours intéressant. Enfin, on a quand même une sensation de densité dans sa musique, toujours.
Donc à suivre, parce qu'il est très jeune. Alors là, une œuvre colossale, la 8e de Dvorak. Tout le monde connaît la 9e, la symphonie du nouveau monde, mais cette 8e symphonie est très belle aussi. Vous l'avez déjà jouée,
plus d'une fois. Heureusement, avec grand plaisir. C'est une œuvre que j'adore, comme presque toute la musique de Dvorak. Bon, les symphonies, on joue toujours un peu les deux mêmes, les deux dernières, 8 et 9. Bon, il y en a d'autres qui sont très belles, bien sûr, mais celle-ci annonce vraiment le nouveau monde, enfin, directement. Hein. C'est déjà un Dvorak très mûr, et puis qui utilise l'orchestre avec son langage personnel. Il y a toujours des magnifiques mélodies, une orchestration très colorée, cette référence quand même incontournable chez Dvorak au folklore populaire de Bohème, dont il était issu, qu'on retrouve beaucoup, enfin dans presque toutes les œuvres, mais en particulier, bien sûr, dans le concerto pour violon, dans les danses slaves, enfin tous ces chefs-d'œuvre pour l'orchestre. Hein. Bon, souvent, ils demandent un orchestre bien affûté, mais enfin, sont très plaisantes pour l'oreille et à jouer. Il y a une référence quasiment permanente à la danse, toujours, même, disons que le pathétique, le romantisme... est toujours quand même plus léger que chez des gens comme Tchaïkovski. Enfin, c'était un personnage, contrairement à Tchaïkovski, qui a une vie très très tourmentée. Dvorak était un personnage beaucoup plus positif. Bon, il a été appelé à la fin de sa vie à New York et il a fondé, je crois, le conservatoire de New York.
C'était le premier directeur.
Premier directeur. Et puis, il y a passé plusieurs années avant de revenir en Tchécoslovaquie à l'époque. Enfin... en Bohème, et donc ça s'entend beaucoup dans sa musique. Enfin, il y a des éléments évidemment romantiques, mais qui sont contrebalancés par la couleur orchestrale, par la danse. Voilà, ça n'est jamais aussi...
Il n'y a pas le côté dépressif de Tchaïkovski.
Oui, voilà, si on peut dire ça comme ça, c'est rarement... c'est romantique, c'est très très lyrique, mais ça n'est jamais pesant.
Troisième œuvre au programme de ce concert du 23 février, le deuxième concerto pour piano et orchestre de Serge Prokofiev. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer celui-ci avec l'Orchestre du Capitole?
Alors oui, il a été joué, mais pas beaucoup. C'est le second, c'est ça?
Oui,
voilà.
C'est ça. Okay.
Parce que c'est un concerto qui est très très difficile pour le pianiste. Il est beaucoup moins joué, il est de dimension plus grande. En l'occurrence, là, contrairement à la symphonie de Dvorak, c'est un concerto vraiment très lourd, très imposant. Mais bon, c'est toujours une musique fascinante, Prokofiev. fief aussi avec son univers comme ça néoclassique. Et puis en plus, c'est encore l'époque, si je me souviens bien, au début des années 20, où il y a quand même une écriture parfois presque un peu féroce, enfin très dissonante. C'est pas le Prokofiev qui aura un peu plus tard en Union soviétique avec bon, le troisième concerto, mais même des œuvres un peu plus douces comme les œuvres des années 40, voilà, et qui seront un peu commandées par le régime. Mais même lui-même, il aura cette évolution de retour en arrière. Dans les années 15, 20, 25, il a encore toute sa, voilà, son côté juvénile avec
tout son élan. Alors, il va être joué par le pianiste russe Andrei Korobeynikov. Je crois que c'est une première pour lui avec l'Orchestre du Capitole. Anne-Marie, vous connaissez un petit peu son CV, ce pianiste ?
En dehors de lire son CV, je ne le connaissais absolument pas. Il est né en 1986, donc il est russe.
Très jeune aussi, il a
32 ans. Il a eu le conservatoire de Moscou, mais aussi le Royal College de musique de Londres. Et apparemment, c'est un surdoué parce qu'il compose également. Et il a déjà enregistré l'intégrale des études de Scriabine. Il a fait des tas de choses. Il fait une carrière internationale. Donc, je pense que c'est un pianiste qui est déjà réputé. Bon, on ne l'a jamais entendu à Toulouse. On va le découvrir.
Ça sera une découverte, voilà.
Un pianiste qui a un solide cursus et surtout, apparemment, de gros, gros moyens.
Oui, certainement une solide technique parce que pour jouer ce...
Oui, il faut être un peu virtuose.
Voilà, ce concerto-là...
C'est un pianiste qui, techniquement, doit être transcendant pour jouer cette musique.
Bon, eh bien, écoutez, je vous propose justement qu'on l'écoute maintenant, cet Andrei Korobeynikov dans le premier mouvement du deuxième concerto pour piano et orchestre de Serge Prokofiev. Premier mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Serge Prokofiev, interprété par le pianiste russe Andrei Korobeynikov, que vous pouvez découvrir accompagné de l'Orchestre National du Capitole lors du concert qu'il donne vendredi 23 février à 20h à la Halle au Grain, sous la direction d'Andris Poga. Au programme également, Saftil Zaman à la mémoire de Pierre Boulez de Benjamin Attahir et la 8e symphonie d'Anton Dvorak. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'y avoir participé à mes côtés. Dans l'agenda de la semaine, je signale que le prochain concert de la saison bleue a lieu mardi 20 février à 18h15 à l'auditorium du musée des abattoirs avec une carte blanche au conservatoire de Toulouse, deux pianistes et un altiste pour un programme d'œuvres de Haydn, Chopin et Beethoven. Renseignements et réservations sur www.toulousedt.org à la rubrique La saison bleue. Je rappelle au théâtre du Capitole le récital de la soprano Jeudi de Vos, jeudi 22 février à 12h30 dans le cadre des Midi du Capitole et les représentations de la version concert d'Orphée Eurydice, l'opéra de Gluck, par les talents lyriques de Christophe Rousset, vendredi 23 février à 20h et dimanche 25 à 15h. Pour plus de détails sur les programmes, les distributions et pour réserver vos places, il y a le site du Théâtre du Capitole, www.theatreducapitole.fr. Et enfin, concernant le concert de l'Orchestre National du Capitole et du pianiste Andrei Korobeynikov dont nous venons de vous parler, ce sera donc sous la direction d'André Spoga, vendredi 23 février à 20h à la Halle aux Grains. Je vous invite à consulter le site de l'Orchestre National du Capitole pour réserver vos places, www.onct.toulouse.fr. La régie technique de cette émission était assurée par Francky Guéret. Ce numéro est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.